Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Alors, c'est pourquoi ?
Par curiosité, pour voir. C'est pour ça que je t'ai suivi, bonhomme.
Curiosité, l'info locale autrement. C'est sur Canal B du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40. Aujourd'hui, reportage à la découverte de la nouvelle exposition de l'espace des sciences, Léonard de Vinci à la croisée des arts et des sciences. Vous propose donc de comprendre les compétences multiples de cet artiste italien mondialement célèbre. Léonard de Vinci, il est né en Toscane au 15e siècle et il arrive en France en 1516 à l'invitation de François Ier. Il y passera les trois dernières années de sa vie. L'exposition que vous allez découvrir dans un instant, elle est à voir jusqu'au 31 août, du mardi au dimanche. Et c'est accessible à partir de 8 ans. Les tarifs vont de la gratuité à 7 euros.
Là, on est ravis de vous accueillir à l'Espace des Sciences pour notre nouvelle exposition temporaire qui fait suite à Microbiote qui a eu un beau succès. Mais là, pour cette rentrée magnifique de printemps, on a souhaité prendre du recul et on a été en contact avec le château du Clos-Lucé qui possède une magnifique expertise, des collections, des machines et une compétence mondiale sur Léonard de Vinci qui est un génie qui nous fascine toujours de nos jours.
Michel Cabaret, directeur de l'Espace des Sciences.
Alors effectivement, le Clos-Lucé est vraiment ravi de...
François Saint-Brice, président de la Société du Château du Clos-Lucé.
Cette nouvelle exposition, qui est une exposition que nous avons développée pour une utilisation hors les murs. En fait, le Clos-Lucé, c'est là où Léonard de Vinci a vécu les trois dernières années de sa vie, de 1516 à 1519. C'est là aussi où il est mort et c'est un haut lieu de légitimité. Nous sommes ouverts au public depuis 1954. C'est une entreprise familiale, c'est une entreprise culturelle privée, mais à mission de service public. C'est un château, c'est un musée, mais c'est aussi devenu depuis une quinzaine d'années une institution culturelle qui crée du contenu scientifique et qui s'est attachée à mieux vouloir comprendre tout l'héritage universel de Léonard de Vinci. Donc effectivement, le titre de l'exposition « La croisée des arts et des sciences », c'est tout à fait intéressant parce que Léonard de Vinci a fusionné les arts et les sciences. C'est certainement la plus grande intelligence de l'humanité qui donc est rentrée dans les très grandes profondeurs, dans tous les savoirs, que ce soit l'anatomie, l'astronomie, la botanique, bien sûr la peinture, mais aussi toute l'ingénierie, l'architecture, l'ingénierie civile et militaire. Donc, je pense que la meilleure des choses, c'est d'aller découvrir. Oui. Alors on va commencer le début de cette exposition, et là vous voyez une bibliothèque. C'est la représentation de toute la connaissance de Léonard de Vinci, de ses savoirs. Léonard de Vinci n'a pas été à l'école, c'est un autodidacte. Il va tout apprendre de la nature, baser le tout sur son œil. D'ailleurs, son grand-père lui dit « ouvre l'œil, pour l'occhio ». Il va apprendre le latin et le grec sur le tard. Il étudiera les mathématiques dans une école d'Abaque. Il ne deviendra pas notaire comme son père, parce qu'il ne le pourra pas. Mais c'est les méthodes d'Abaque, donner un peu les principes des mathématiques, de la comptabilité. Ce que vous voyez ici, ce sont des reproductions de ces fameux codice, des codex. Et là, vous avez tout son héritage scientifique. Les reproductions de ces 14 manuscrits que vous voyez sont celles des manuscrits qui sont conservés à l'Institut de France.
Après cette entrée en matière, l'exposition commence ensuite pour de bon et s'arrête d'abord sur l'intérêt de Léonard de Vinci pour l'ingénierie.
Léonard n'est pas un ovni, n'est pas quelqu'un qui... le génie tel qu'on le dit. Il est nourri dans une époque, c'est l'époque de la Renaissance. Et il s'inspire des ingénieurs siennois comme Taccola, comme Alberti qui a théorisé l'architecture, comme Bramante, comme Brunelleschi. Donc il vit une époque, l'Italie est bien sûr en avance, c'est la raison pour laquelle les rois de France vont faire campagne pendant plus de 60 ans, Charles VIII, Louis XII, François Ier, en Italie, pour retirer le meilleur de l'Italie et faire sortir la France de l'époque médiévale. Et donc, il a la chance de vivre à Florence, puis à Milan, puis à Rome, qui sont vraiment les foyers nouveaux de la culture européenne. Donc là, c'est une machine qui nous fait comprendre la transformation du mouvement, une espèce de ressort qui permet de transformer le mouvement horizontal en un mouvement vertical. Vous avez d'ailleurs une vidéo qui reprend différents principes mécaniques qu'il a repris. Alors là, le premier que vous voyez, c'est le roulement à billes. En fait, il est désespéré de voir ses contemporains peiner, tirer des chariots, des charges lourdes, et il invente ce roulement à billes. C'est extrêmement moderne, qui est utilisé bien sûr dans toutes les roues de voiture et qui permet de vraiment faciliter le mouvement.
Léonard de Vinci s'intéresse autant au génie civil que militaire ou à l'architecture. Il étonne par ses inventions comme les machines volantes, le char d'assaut ou encore le pont tournant. On en voit des maquettes au sein de l'exposition. Léonard et l'aéronautique, c'est une autre expertise qui est mise en lumière dans l'expo. Son rêve le plus fou à Léonard, c'était en effet de faire voler l'être humain. Pendant 33 ans, il a donc travaillé avec persévérance dans ce domaine. Des connaissances qui ont été couchées sur le papier en 1505, c'est le Codex sur le vol des oiseaux, 160 pages et plus de 500 esquisses dans lesquelles il imagine, par exemple, les ornithoptères, des machines qui reproduisent le vol des oiseaux avec des ailes mues par la force des bras et des jambes. Allez, sujet suivant, on passe à l'urbanisme.
Alors là, on est en face d'une machine assez extraordinaire. C'est un engin de levage. Et Léonard de Vinci, il est formé à l'atelier de Verrocchio. Il a 15 ans, son père ne sait pas très bien que faire de lui, mais il voit qu'il a des talents de dessinateur. Léonard va y apprendre le dessin, la peinture, la sculpture, l'architecture, l'orfèvrerie, l'art de la fonderie. Et à l'âge de 50 ans, il écrit dans ses codex « Souviens-toi, quand nous posions la boule surmontée d'une croix au sommet de la cathédrale de Sainte Maria del Fiore. » C'était une performance incroyable. On parlait de soudure, et la soudure de cette boule d'une tonne. Et donc, effectivement, on soudait avec des miroirs concaves, avec le soleil. Donc, vous voyez, c'était pour lui une expérience. Alors, ça, c'est exactement cette machine de Brunelleschi qui est mort 30 ans avant lui. Mais il a encore vu ce type de machine qui était très présente à Florence sur les grands chantiers structurants de la ville. Elles étaient juchées très très haut en hauteur et elles pivotaient à 360 degrés et elles portaient de très lourdes charges, notamment toutes les briques qui ont permis de faire cette voûte incroyable de Florence, d'ailleurs qu'on peut visiter. Ensuite, lui-même, il va penser à d'autres engins de levage, des grues, des systèmes pour curer les ports. Enfin, c'est absolument incroyable, tous les engins techniques que Léonard de Vinci invente.
Sous l'impulsion de l'essor scientifique et technique de la Renaissance, à travers d'immenses chantiers, en Europe, chaque prince a cherché à bâtir et embellir la cité. Préoccupé par l'état sanitaire des villes, alors que la peste frappe Milan de 1484 à 1490, Léonard de Vinci imagine, lui, une cité propre et fonctionnelle. Et le projet le plus grandiose sur lequel il travaillera sans que ça n'aboutisse, c'est le palais de Romorantin à Sologne. Une commande de François Ier qui voulait un nouveau palais royal dans ce qu'il imaginait être la nouvelle capitale du pays. La mort de Léonard de Vinci est venue mettre fin au projet et finalement rediriger François Ier vers le futur château de Chambord.
Vous écoutez Canal B
en FM en Ille-et-Vilaine sur le 94
et partout dans le monde sur canalb.fr.
L'espace suivant de l'exposition, on y arrive, s'intéresse à l'anatomie.
Alors, Léonard de Vinci va aller beaucoup plus loin que ses contemporains. Il étudie l'anatomie. Il est intéressé par comprendre la mécanique, le mouvement. Mais non seulement l'anatomie superficielle, comme l'ont fait tous les peintres qui voulaient mieux peindre et mieux représenter le corps humain. Lui, ce qui l'intéresse, c'est comment fonctionnent les fonctions des organes. Et il va tout disséquer, en fait, que ce soit du squelette, aux muscles, aux tendons, aux organes, le cœur, le fœtus, jusqu'à l'embryon. Il dissèque avec tout son passé d'ingénieur. Et donc, il voit aussi que, par exemple, le bras est mû par des tendons et des muscles, et peut lever des charges. Tout ça l'intéresse. Ce qui est intéressant dans le savoir de Léonard, c'est qu'il fertilise une connaissance dans un domaine à un autre. Et il le fait grâce à ses talents d'observation, puisqu'il regarde tout, et également ses prédécesseurs. Là, vous avez la main, chirurgie de la main. Et nous avons un Dominique Le Nain, qui est un Breton, chirurgien de la main, qui a lui-même, avec ses élèves, dans la journée, disséqué un bras. Et il dit, dans la chirurgie de la main, il n'y a pas d'erreur. Voilà, on est confondu par l'immensité de l'étendue de son savoir.
Le travail d'anatomiste de Léonard de Vinci, il est indissociable de son travail de peintre. Il est souvent comparé à une imagerie médicale contemporaine grâce à sa précision. En tout, il a disséqué plus de 30 cadavres d'hommes et femmes de tous âges, mais aussi d'animaux, des chevaux, des ours, bovins, porcs ou encore oiseaux. L'objectif était toujours le même, peindre au plus près de la réalité. Léonard de Vinci est mondialement connu pour son travail de peintre. C'est le dernier volet de l'exposition qu'on vous fait visiter aujourd'hui, avec 4 copies de tableaux qui sont présentées au public.
C'est un dessinateur de talent et certainement le plus grand des peintres, puisqu'il reste pour l'humanité le peintre de la Joconde, de Mona Lisa, et le peintre du dernier repas du Christ de la Seine, qui est au couvent de Sainte-Marie-des-Grâces de Milan. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les peintures de Léonard ? Léonard peint généralement, non pas de face, mais de trois quarts. Donc c'est une innovation dans la peinture. Il peint à l'huile, il peint comme les Flamands, hein. C'est une technique qui vient des Flandres. Il va utiliser la perspective, il va utiliser une technique dont personne ne connaît le secret, qui est le fruit de son expérience, qu'on appelle le sfumato. Sfumato, ça veut dire la fumée. Donc, estomper les contours. Il va aussi avoir une technique de peintre, c'est de procéder par touche. C'est la raison pour laquelle il ne nous laisse que 17 peintures en héritage, alors que d'autres sont beaucoup plus productifs, comme Michel-Ange, qui ont des ateliers, des élèves. Et bon, qui ne s'attache qu'à la peinture. Léonard, il fait tout sauf de la peinture, mais quand même, ce tableau, il le commence en 1503.
Ce tableau, c'est une reproduction de la célébrissime Joconde.
Et en 1519, il sera dans son atelier au château du Clos-Lucé. Donc vous voyez, il met très très longtemps à terminer, puisqu'entre-temps, il saute d'un sujet à l'autre. Ces tableaux, comme on le voit, comme le Saint-Jérôme, qui est là-bas, dont on n'a pas encore parlé, mais c'est toujours l'humanité dans l'univers. Alors, sur le plan scientifique, toutes ces peintures ont été étudiées, d'abord avec la radiographie au Louvre, et puis maintenant la réflectographie, et on ne voit pas de contours. Donc, ce qui fait un peu cette unicité, et puis qui donne aussi la tridimensionnalité de l'œuvre. En fait, il y a une rupture entre la peinture médiévale et la peinture de la Renaissance, avec les nouvelles techniques qu'apporte Léonard de Vinci dans la peinture. Vous êtes en face de la Vierge au rocher. Il y a donc 4 personnages. C'est la Vierge avec l'enfant Jésus, Saint Jean-Baptiste et l'ange. qui pointe du doigt. Et puis, elle est dans un univers de rocailles, de rochers. Ces rochers qui ont des milliards d'années et qui sont derrière. Et cette opposition qui montre que l'homme fait partie de l'univers, finalement.
La Joconde, la Vierge au Rocher, ça on les a cités. Vous pourrez aussi admirer à l'Espace des Sciences la Dame à l'Hermine et Saint Jérôme. Ce dernier tableau, on précise qu'il est resté à l'état d'ébauche, commencé en 1482 et inachevé à la mort de Léonard de Vinci en 1519. Je termine en ajoutant que l'exposition, elle est interactive, avec plusieurs écrans tactiles et des vidéos 3D. Pour plus d'infos, vous pouvez aller sur le site espace-science.org. Et dans le prolongement, il y a une animation qui est proposée tous les jours par un médiateur et une conférence qui est organisée la semaine prochaine, mardi 8 avril à partir de 20h30. Les audaces techniques et scientifiques de Léonard de Vinci, ce sera le sujet abordé par Pascal Briouat. Il est historien des sciences à l'université François Rabelais de Tours et spécialiste, vous l'aurez compris, de Léonard de Vinci. Curiosité, c'est terminé. Un programme d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h40 et en rediffusion le lendemain à 9h40 pour les podcasts direction canalb.fr.